CCE, vous informer et vous donner la parole.
Bonjour Chaville, il est 8h, très très bonne année 2025 à vous tous et toutes, c'est Radio VCE, au micro aujourd'hui Jonathan Bord, au déboté comme il y a deux semaines, mais dans l'immédiat, autour de la table, nous avons Monique Couteau pour ce début d'année.
Oui, et qui va vous parler du rapport de l'Observatoire des inégalités sur la pauvreté en France qui est sorti en décembre 2024.
Mais bonne année.
Bonne année.
On enchaîne ensuite avec Alain qui va nous parler d'un site parisien.
Oui, alors à l'occasion de la sortie du film de Nick Lou, Sarah Bernard la Divine, je vais vous parler un petit peu de cette gigantesque comédienne.
Très bien. Et puis notre nouvelle rubrique à table, vous avez été nombreux à réagir depuis deux semaines. On veut la suite. Clément, de quoi vas-tu nous parler ?
Oui, alors pour bien commencer l'année, on va commencer avec un grand classique, la pomme de terre.
Voilà, l'hiver continue. C'est Radio VCE, c'est la 97e jingle.
Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
Oui, alors après celui du Secours catholique dont nous avons parlé au mois de septembre 2024, la quatrième édition de ce rapport de l'Observatoire des inégalités est parue le 3 décembre 2024.
D'accord, alors quels sont les principaux constats sur ce document ?
Quelques chiffres tout d'abord. 5,1 millions de personnes sont pauvres, c'est-à-dire vivent avec moins de 1014 euros par mois après prestations sociales pour une personne seule. Pour un couple sans enfant, ça représente 1500 euros. Et pour une famille avec deux enfants de plus de 14 ans, 2500 euros. Ce qu'on remarque, c'est que la pauvreté gagne du terrain. Les chiffres avaient atteint un point bas en 2002. 20 ans plus tard, on compte 1,4 million de pauvres supplémentaires. Le taux de pauvreté a augmenté d'1,5. En 2022, 8,1% de la population vit sous le seuil de pauvreté fixé à 50% du revenu médian. Selon les catégories de population auxquelles vous appartenez, le risque d'être pauvre est très inégal. Les enfants et les jeunes de 18 à 29 ans sont nettement plus touchés que les autres tranches d'âge, avec respectivement 11,4% et 10% des pauvres, ce qui veut dire qu'une personne pauvre sur deux a moins de 30 ans. Les célibataires sont deux fois plus touchés que les couples, 12,8% des personnes seules de moins de 65 ans et même 19,2% des familles monoparentales sont pauvres, contre 5,6% des couples. L'emploi fait également la différence. Oui. Un quart des chômeurs sont pauvres, mais travailler ne protège pas complètement. 1,1 million de travailleurs ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, environ 4% des personnes en emploi. Parmi les actifs, le taux de pauvreté est de 5,5%. Il grimpe à 7,3% pour les ouvriers et 6,4% pour les employés. Les immigrés sont surreprésentés. Leur taux de pauvreté atteint en moyenne 18,8% et même 23,6% pour les Maghrébins. Une personne handicapée sur 5 est pauvre. Et on peut ajouter des grosses différences entre les villes et au sein des villes. Le taux de pauvreté dépasse 65% dans 18 quartiers défavorisés dans différentes villes de France. Dans les DOM, 36% des Réunionnais sont pauvres. À Mayotte, on atteint 77%. En Guyane, 53%.
Oui, c'est effarant, enfin, c'est très impressionnant. Comment est-ce que le rapport explique ces écarts de proportion ?
Par des minima sociaux insuffisants, par un manque de qualification, 81% des pauvres ne sont pas allés au-delà du baccalauréat. En ce qui concerne les immigrés, ils cumulent souvent les difficultés des personnes peu qualifiées, mais en plus, les discriminations à l'embauche et l'interdiction faite aux étrangers non européens d'exercer un grand nombre d'emplois. Pour les jeunes, ils doivent atteindre 25 ans pour avoir droit à un minimum social. Quant aux mères de famille monoparentales, elles conjuguent souvent de très faibles revenus et un emploi du temps intenable pour gérer les enfants et les petits boulots.
Alors, au-delà des chiffres, finalement, comment est-ce que concrètement ça se traduit, la pauvreté ?
Partout, pareil, par des privations. Parmi les 20% les plus modestes, 62% déclarent qu'ils ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 1000 euros et 56% qu'ils ne peuvent pas changer un meuble hors d'usage. Un quart se prive sur les repas et sur le chauffage. 53% ne peuvent pas partir en vacances. 15% ne peuvent même pas s'offrir un verre ou un repas entre amis. Il faut souligner aussi que 330 000 personnes n'ont pas de domicile et vivent à la rue, à l'hôtel social ou en centre d'hébergement. Pour les jeunes concernés par la pauvreté, des centaines de milliers survivent à l'aide de parents, amis, associations, mais ils galèrent et dépendent des autres pour survivre.
Alors, l'Observatoire des inégalités nous rend donc ce rapport annuel. C'est un document très précieux et on vous en parle, je crois, tous les ans. Est-ce que il y a des propositions concrètes dedans pour améliorer ces situations ?
Oui, il suggère quelques exemples. Les pistes ne manquent pas, mais contrairement à la volonté politique qui, elle, fait défaut. Ouvrir les minima sociaux aux moins de 25 ans. Remettre tout le système à plat pour que chacun, chacune, ait au moins de quoi vivre dignement. 1000 euros mensuels pour une personne seule, par exemple. Assouplir les conditions d'accès au travail des étrangers. Un simple coup de tampon des préfectures libérerait des dizaines de milliers de places en centre d'hébergement et ferait rentrer des cotisations sociales dans les caisses de l'État. On a fait baisser le chômage à coup de flexibilité, de précarité et d'emplois sous-payés. Il faut re-réguler le marché du travail et pénaliser les entreprises et les services publics qui abusent d'une précarité de masse. Enfin, il faut relancer une politique du logement social digne de ce nom. Il y a toujours 4 millions de mal logés et il faut penser aussi à refonder le système scolaire pour qu'il ne laisse personne sur le chemin. Il y a encore bien d'autres leviers et ce qui est sûr, c'est que les associations caritatives qui procurent de la nourriture, des vêtements, des logements, de l'écoute, atteignent aujourd'hui leurs limites. Cette sous-traitance de l'action sociale est justifiée quand elle permet de combler des besoins d'urgence locaux grâce à une connaissance plus fine du terrain. Elle ne l'est plus quand l'État se défausse de ce qu'il devrait faire.
Merci Monique pour le compte-rendu de ce rapport tout à fait passionnant. On va rappeler que effectivement c'est même inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946. La nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. On voit bien qu'on en est très très loin. Mais sur cette note pas forcément très joyeuse, on va enchaîner sur notre rubrique culturelle. À très vite, vous retrouverez par ailleurs ce rapport dans le texte en description.
Bande annonce avec Alain de Frémont.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous. La place du Châtelet, dans le 4e arrondissement de Paris, offre deux théâtres face à face, le Châtelet et le Théâtre de la Ville, qui vient de rouvrir avec un nouveau nom, Théâtre de la Ville Sarah Bernhardt.
Ah, mais alors pourquoi ce nom ?
Alors c'est toute une histoire. La célèbre comédienne Sarah Bernhardt prend possession du Théâtre des Nations, qu'elle rebaptise de son nom en 1898. Chaque dimanche, entre la représentation de la matinée et celle de la soirée, elle y offre un dîner fréquenté par le tout Paris du spectacle. C'est une femme passionnée, mais pas que de théâtre, car elle s'illustre dans la défense du capitaine Dreyfus, contre la peine de mort avec Louise Michel, et dirige même une infirmerie à l'Odéon, lors du siège de Paris en 1870.
Alors merci, alors voilà pour le personnage de Sarah Bernhardt, mais revenons au théâtre.
Dès son arrivée, donc, en 1898, elle exige que la ville de Paris lui loue le théâtre, y rénove la scène, la salle et la façade. Elle-même se ruine en décors, costumes et en commandes dans de très nombreux dramaturges contemporains oubliés aujourd'hui. À sa mort, en 1923, ce sont les frères Vincent et Émile Isola qui reprennent le théâtre, celui-ci périclitant et partant à volo. Il devient le théâtre du peuple sous le Front populaire, puis théâtre de la cité. Les occupants allemands obligent la municipalité à éliminer de la façade le nom trop juif de Sarah Bernhardt, mais le théâtre reprend son nom en 1945, 47, pardon, sous la direction de Armand-Juliette Maistre, qui invite des vedettes. Yves Montand et Simone Signoret dans Les Sorcières de Salem, Pierre Dux dans Cyrano de Bergerac, et le premier festival d'art dramatique en 1954 où apparaissent Bertolt Brecht et Luchino Visconti. C'est un triomphe. Le théâtre, on redevient alors théâtre des nations, avec pour objectif de révéler des troupes étrangères, des metteurs en scène novateurs. Il est confié en 1965 à Jean-Louis Barrault, qui embarque la programmation à l'Odéon. Déstabilisé, il disparaît dans le tourbillon de mai 1968. Quand le comédien et metteur en scène Jean Mercure demande à la ville de lui donner les moyens d'en faire un théâtre municipal populaire, la ville accepte et le théâtre est rebaptisé Théâtre de la Ville en décembre 1968 et devient alors le théâtre le plus moderne d'Europe. Par son équipement et sa pluridisciplinarité, musique, danse, théâtre, chanson, le théâtre deviendra même la plus importante scène chorégraphique du monde.
Alors, pourquoi cette réouverture aujourd'hui, finalement ?
Alors, après l'incendie de 1982 et durant les années 1990, le théâtre vieillit et nécessite de longs et coûteux travaux, 48 millions d'euros. Et c'est avec son nouveau directeur, Emmanuel de Marcimota, qu'il va se réinventer aujourd'hui. En faire un lieu ouvert sur la place des théâtres, avec le Châtelet, nouveau cœur artistique de la capitale pour une programmation ouverte sur le monde, sur les arts numériques, connectée au grand théâtre du monde dans l'esprit du premier Théâtre des Nations. La boucle est bouclée. Vive le théâtre de la ville, Sarah Bernard.
Ben voilà qui est dit. Merci Alain. Vous retrouverez là encore sur notre texte en description un lien vers le site du théâtre et vous pourrez voir toute la programmation. C'est à Place du Châtelet, de manière complètement centrale. Tout de suite, on enchaîne avec notre nouvelle rubrique « À table, jingle ».
À table avec Clément Chassin.
Bonjour Clément, pour cette nouvelle année, tu vas nous parler d'un aliment populaire.
Oui, un grand classique, la pomme de terre. J'ai envie de dire même un incontournable de la saison. Donc la pomme de terre, alors là, je vais parler de la pomme de terre Hasselback. Donc, c'est le nom de la recette, où on peut aussi le trouver sous l'appellation pomme de terre à la suédoise.
Ah.
Voilà, parce que souvent, on tourne en rond quand même avec les pommes de terre, entre la pomme de terre à l'eau, la purée, éventuellement la pomme de terre frite, voilà, ou sautée. Mais bon, une fois qu'on a fait le tour de ces trois recettes, on est un peu coincé.
C'est toujours tellement bon.
C'est tellement bon. Ah ben ça, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, on peut tourner en rond. Puis alors après, s'il faut se lancer dans les pommes de terre au four, tout ça, on peut rentrer dans des trucs qui peuvent être un peu compliqués. Du coup, moi, un jour, je suis tombé sur cette recette et voilà, je vais la partager.
Allons-y.
Voilà. Donc, alors je vais l'adapter un peu à ma sauce, parce que, effectivement, voilà. Donc, le principe de la pomme de terre Hasselback, c'est on coupe la pomme de terre en tranches fines, mais pas en entier. On garde juste le bas de la pomme de terre, pour comme ça se tient. Voilà, ça se tient. Alors, il y a un truc pour
alors
faire
je,
ça.
Je vous interromps juste, hein, c'est parce que je vois nos deux autres chroniqueurs en train de prendre des notes. Hein. Je t'en prie.
Voilà. Donc ça tient. Et alors là, il y a un truc, parce que j'ai vu la recette coupée comme ça. Alors je me suis dit, voilà, comment je vais faire ? En fait, je mets des baguettes chinoises pour manger, là. J'en mets une de chaque côté de la pomme de terre. Ça coince la patate sur la planche à découper. Et comme ça, quand je coupe, ça arrête le couteau à quelques millimètres de la planche.
Mais c'est futé, ça, bon sang.
Ah oui, non, mais c'est simple. Il faut faire simple à un moment. Donc voilà, donc finalement, c'est pas très compliqué de la couper comme ça en tranches fines. Voilà. Et alors, ensuite, alors, la vraie recette, normalement, il faut mettre une petite lichette de beurre entre chaque tranche. Après, il faut mettre un filet d'huile, il faut mettre des épices. Moi, j'ai trouvé ça un peu compliqué. Donc, moi, ce que je fais, c'est je prends un petit verre, je mets un petit fond d'huile d'olive, j'écrase deux pointes d'ail dedans, je mets sel, poivre, on peut mettre des herbes, on peut mettre... Après, c'est au goût de chacun, j'ai envie de dire. Voilà. Et après, avec ce petit mélange d'huile, là, effectivement, je badigeonne mes pommes de terre, j'en mets un petit peu entre les tranches. Et je mets au four pour 40 minutes et c'est tout. Voilà, en 40 minutes, c'est fait. C'est tout simple. Alors, ce qui est magique, c'est qu'effectivement, à la cuisson, ça va s'ouvrir. Donc, quand je le sors du four, j'ai la pomme de terre entière, mais qui est ouverte comme une fleur. C'est beau comme tout. Voilà, et c'est Pas très compliqué, ça se prépare en 5-10 minutes. Après, voilà, ça cuit tout seul au four pendant 40 minutes.
À quel four?
Oui, alors, oui, 40 minutes, 180 degrés.
180, après, voilà. Classique. D'accord.
Voilà, et après, c'est tout simple. Après, alors là, après les fêtes, c'est justement, on peut faire un truc tout simple, une petite assiette, tu mets une pomme de terre comme ça, tu mets une petite salade à côté. Il faut profiter en ce moment, on trouve des petits navets blancs, là, qui sont un peu fermes, râpés avec une petite salade. Voilà, on peut faire un petit peu de crudité à côté, une petite carotte râpée, un petit peu de navets, des noix, voilà. On a une pomme de terre, quelques crudités à côté, ça fait une petite assiette. C'est très sain, c'est très bon, et voilà, et rapide à faire.
Et c'est la pomme de terre Hasselbach.
Hasselbach, c'est le nom de la recette. Ou sinon, vous cherchez pomme de terre à la suédoise, oui. Vous trouvez la recette. Voilà.
Donc, tu prends plutôt des pommes de terre à chair ferme.
Plutôt des pommes de terre à chair ferme, effectivement, qui vont se tenir au four. Voilà. Oui. Et comme ça, après, on a la forme de la pomme de terre. Et c'est une cuisson où, effectivement, quand on la sort au bout des 40 minutes, elle se tient bien et c'est assez agréable. Voilà.
Bon, je vais tester.
Voilà, tous en cuisine en ce début d'année. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup toute l'équipe. C'en est fini de cette émission, cette première émission de l'année. C'était Jeunette en bord avec tout le monde. À la semaine prochaine. Salut.